Moi aussi, je dégouline de compassion. Moi aussi, quand il y a une catastrophe, je suis là au bord des larmes, parlant au français, la langue du cœur, ce cœur dégoulinant de compassion.
Hier, 19h, Dominique Bussereau, sous-secrétaire d'État, sous-ministre, je ne sais pas exactement, des transports, à propos de la catastrophe aérienne, nous interpelle en nous disant « prions ». Voilà, je suis une fois de plus très énervée, encore une bondieuserie par un ministre. À bientôt.
Oui, bonjour. Au sujet de la disparition de l'Airbus, là, moi j'ai une petite idée sur les causes, hein. Je suis sûr que notre ministre de l'Intérieur aussi a la même idée que moi, parce que quand on pense qu'il y a un dangereux terroriste, anarcho-machin-chouette, là, qui a été libéré peu de temps avant, c'est quand même bizarre, non? Et puis, vous savez le proverbe, qui vole un œuf, vole un bœuf. Ah, on commence par attaquer les TGV, et puis ça n'en finit plus, quoi. Tout ça, je le dis avec ironie, j'espère que ça donnera pas des idées à la con à MAM. Allez, salut. C'était Jean de Charmont.
Oui, bonjour. Je voudrais pas en rajouter une couche avec le tapage médiatique, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de ce crash de l'avion entre Rio et Paris. Alors c'est évidemment un drame pour les familles, mais bon, voilà, on ressort les journalistes avec leur air faussement contrit et on tombe beaucoup dans le pathos. Justement, je trouve que c'est carrément indécent pour les victimes. Et évidemment, à quelques jours des élections européennes, ça permet de ne pas parler du fait que les candidats s'en foutent à peu près royalement, que personne n'a vraiment de programme. Et si j'osais, je me dirais que cet avion, ma foi, il est bien tombé, quoi. Voilà, et bien, bonne journée à tous. C'était Cyril, ciao.
Salut Daniel Mermet, ça fait des années que je vous écoute, toujours une excellente émission, il faut que ça dure. Oh, ce message un peu désabusé d'un Européen convaincu, comme on dit, professeur de droit par ailleurs, et je suis assez accablé devant le niveau des journalistes de France Inter. Rappelez-vous, lors de la Coupe du Monde de rugby, on a eu droit à un décompte, J-30, J-29, J-28, etc. Un vrai suspense, et tous les matins, pendant 10 minutes, on avait droit à une petite leçon de rugby, on avait une leçon sur le vocabulaire, la stratégie. Nous sommes à une semaine des élections européennes, et curieusement, on n'a pas un décompte comme celui-ci, J-15, J-14, J-13, et puis nous n'avons pas non plus des petites leçons sur les compétences du Parlement européen, les dossiers qu'il traite, en quoi c'est important peut-être d'élire des représentants à Bruxelles, et pourquoi ce n'est plus dans le Parlement français que les politiques de dimension européenne se font. Les journalistes ont démissionné, ils préfèrent le rugby ou le football à l'Europe, c'est un choix, mais qu'on arrête de dire que les Français ne s'intéressent pas à l'Europe. Ce sont les journalistes qui ne comprennent d'ailleurs rien à l'Europe, hein, parce qu'ils ne sont pas formés pour cela. Et vous savez, j'ai enseigné quelque temps à Sciences Po, même toujours d'ailleurs, j'ai fait des interventions dans les écoles de journalistes et c'est assez sidérant. Donc voilà, je voulais faire part de cette inquiétude. À très bientôt.
Salut Daniel, c'est Polo de Lavardac en Haute-Garonne. Bon, je t'appelle pour te dire que j'adore tes émissions sur la Bolivie, c'est pas mal du tout. J'ai moi-même fait un petit voyage janvier, février, mars, 3 mois en Bolivie, un petit mois au Pérou. Et je trouve absolument fabuleux de voir toutes ces réactions, tous ces gens qui soutiennent ce pays, qui soutiennent toute la politique d'Evo Morales, qui est un peu en dents de scie, c'est vrai, certes. J'étais à La Paz lors du référendum de la Constitution avec des journalistes qui déjà prédisaient qu'une guérilla pourrait peut-être éclater si jamais il y avait le oui qui passait, le non qui passait, quand on voyait qu'après à Cochabamba, à Santa Cruz ou à Sucre, le non passe, mais que la majorité déjà était derrière lui, chapeau quoi. Donc chapeau à toi pour tes émissions et puis merci à tout le monde et merci aux AMG. Ciao.
Merci, chers AMG. Mais aujourd'hui, on revient sur Terre, c'est-à-dire qu'on revient ici, on retournera en Bolivie demain, on reprendra le cours de ce voyage à travers la Bolivie. Pourquoi ? Parce que on a un certain esprit de suite quand même à la base. J'y suis pas assez d'ailleurs. Pas assez parce que le 3 février dernier, on vous avait présenté un reportage sur l'histoire des Goodyear. Vous vous souvenez, à Amiens, cette usine Dunlop Goodyear, avec une partie des salariés qui avaient refusé une proposition de plan social et qui avaient obtenu que cette proposition de leur direction soit refusée par le tribunal, etc. Toutes ces tribulations, toute cette histoire nous avait intéressés, vous avez intéressé. Or, il y a une évolution, si vous suivez un peu, c'est tellement banal et tellement normal aujourd'hui d'entendre des plans de licenciement chaque jour, si bien qu'on n'est même plus informé sur ces destructions massives et quotidiennes d'emplois. Mais enfin, il y a quelques jours, on a appris que 817 exactement, emploi était menacé dans cette usine Goodyear d'Amiens. Alors, avec Renaud Lambert, on a voulu y retourner, voir où ils en sont, voir pourquoi, voir comment, voir les suites et où en est la lutte des travailleurs donc de Goodyear à Amiens. Une description de l'évolution de ce cancer qui ronge et travaille en profondeur notre pays et notre société, et qui s'appelle donc la destruction systématique d'emplois. Autre chose, il y a, je vous l'avais annoncé hier, oui, Howard Zinn, l'historien américain, sera tout à l'heure en dialogue avec vous au CICP 21 Terre rue Voltaire à Paris à 16h. Le CICP rue Voltaire, c'est au métro Nation et c'est organisé par la librairie Quilombo. Rencontre avec l'auteur d'une histoire populaire des États-Unis. Je crains qu'il y ait beaucoup de monde, mais enfin, on a promis de l'annoncer. Et puis, dans la série Petites Annonces, eh bien, ce week-end prochain, trois projections de Chomsky et compagnie. À samedi 6 juin à 15h au cinéma Le Dietrich à Poitiers dans la Vienne, suivi d'un débat avec votre serviteur. Le samedi toujours à 20h au Moulin du Roc à Niort, Deux-Sèvres, suivi d'un débat toujours avec votre serviteur. Et le dimanche 7 juin à 10h30, oui là, c'est tôt, à 10h30 au Stella à Montcoutant dans les Deux-Sèvres, suivi d'un débat. Je crois que ce sera les dernières projections pour cette saison du Chomsky et compagnie. Donc voilà, nous partons pour Amiens, dans la Somme, en Picardie. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel et toute l'équipe, c'est François en Haute-Savoie. Eh ben, en Haute-Savoie, on a entre autres une chance finalement, c'est d'avoir la Suisse voisine. Et l'intérêt de ça, c'est que nous, on reçoit la télévision suisse romande jeudi prochain, donc dans 3 jours, à la télévision suisse romande TSR1, dans le magazine Temps Présent, jeudi 20h05. Il y a un reportage très intéressant en fait sur l'emprise de notre bon et omni-président, Petit Nicolas, donc l'emprise du petit Nicolas sur les médias, et puis ça montre ça de façon très claire. Ils appellent un chat en fait. Ben voilà, si les AMG ont la possibilité de trouver cette émission, donc Temps Présent, de jeudi, sur le net, je pense que c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant pour se renseigner. Enfin bon, je prêche, je pense déjà des convaincus, mais ma foi, à faire passer au plus grand nombre. Pourquoi pas, donc effectivement, ça sera le jeudi 4 juin à 20h05 sur la TSR. Voilà, voilà, nos amis suisses qui font ma foi de bien bonnes choses. Allez, bonne soirée à tous. Salut.
Oui, salut Ruben de Bruxelles. Ce dimanche 7 juin, ce sont les élections européennes, mais c'est également et surtout la dernière séance de projection de la saison du Ciné Domo. Donc, comme tous les premiers dimanches du mois, le Ciné Domo propose de montrer une fiction, un documentaire qui permet une meilleure compréhension du monde. Et donc, ce dimanche 7 juin, il s'agit de L'Assiette Sale. L'Assiette Sale qui est un documentaire qui traite du travail des ouvriers agricoles saisonniers étrangers, donc de leurs conditions de travail, de logement. Et à travers cela, ce documentaire fustige également l'agriculture intensive, ses excès et ses dangers, pour en arriver à la grande distribution. Voilà. À dimanche. Ciao.
Bonjour, c'est Patrick qui vous appelle de Guyane française. Notre président, M. Sarkozy, nous a promis, à la suite de la crise financière, une moralisation du capitalisme et, à la suite du réchauffement climatique, un Grenelle de l'environnement, de façon à ce que la France soit exemplaire en la matière. Mais il faut quand même savoir qu'en Guyane, dans le même temps, ces services ont accordé un permis de recherche à l'entreprise Newmont Mining, qui est une entreprise minière, la première au monde, et qui a reçu l'Oscar de la honte 2009, remis par Greenpeace, par The Public Eye Awards, et qui a récompensé donc une société classée comme une des plus irresponsables sur le plan social et écologique. Voilà. Donc, tout va bien en Guyane. Dormez tranquille, braves gens. Au revoir.
Bien réussir un licenciement. Une bonne négociation vaut sans doute mieux qu'un long procès. Le licenciement, et il en va de même pour le chômage, ne met pas en cause la valeur professionnelle et il n'est pas un déshonneur. À chacun donc de dédramatiser et d'abandonner les mines compatissantes, condescendantes ou contrites. De nos jours, la situation du monde du travail est telle que tout travailleur peut se trouver obligé de renouveler sa formation professionnelle. Les économistes préfèrent parler, plutôt que de chômage, de disponibilité professionnelle entre deux emplois. Quel que soit le désagrément de la situation, ni l'intéressé, ni ses collègues, ni ses proches ne doivent en faire un événement exceptionnel et tragique.
Quand on a donné 35 ans de sa vie et de ses bras à une société comme Goudure pour permettre à une bande d'enculés de s'enrichir sur le dos des autres, je suis désolé, on demande un minimum de respect. Le minimum de respect, c'est ce qu'on va aller chercher dès mardi, voilà.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert. Goodyear, la tête haute.
Flight number 2, arriving from New York.
Ça fait, sans déconner, ça fait 27 ans que je suis embauché, ça fait 27 ans que j'entends l'année prochaine, l'usine elle ferme.
Souvenez-vous, c'était en février dernier. Là-bas si j'y suis vous emmenait en Picardie, à Amiens, sur la zone industrielle nord. Nous vous racontions l'histoire d'une usine.
C'est des conditions de travail qui sont désastreuses. Il fait de la vapeur, il fait une chaleur épouvantable.
Nous vous racontions l'histoire d'une bonne idée. Les cartes huiles.
Ça veut dire deux matins, deux nuits, deux après-midi, deux jours de repos. Les heures supplémentaires ne sont pas payées. Ils sont englobés dans la prime de 140 à 190 euros. Et pour les vacances, c'est pareil. On n'a pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, c'est soit on accepte ça, ou soit on est licencié.
Nous vous racontions aussi l'histoire de deux groupes de salariés de la même société. Ceux qui avaient accepté les 4-8, à Dunlop.
Est-ce que vous voyez travailler toute votre carrière en 4-8?
Non, franchement non.
Ça se passe très mal.
Il y a une mauvaise organisation dans l'usine, c'est affreux. Il y a beaucoup d'absents, franchement c'est le bordel complet dans l'usine. C'est dur. Surtout à travailler le week-end, c'est très dur. Donc je vais essayer de trouver du travail ailleurs.
Et nous vous racontions l'histoire de la victoire de ceux qui avaient refusé. Les salariés de Goodyear.
Et puis notez que concernant le plan social de chez Goodyear, le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu sa décision aujourd'hui. Eh bien le TGI l'a jugé invalide.
Eh bien aujourd'hui, l'histoire continue. Avec un nouveau projet.
Donc on a tous appris que la direction décidait de punir le site d'Amiens Nord avec comme mesure sociale 820 suppressions de postes.
L'histoire continue. Avec une nouvelle direction.
C'est une direction qui a une mission à faire, c'est de fermer l'usine. Et on a à la tête un gars qui est venu pour fermer la boîte. C'est un spécialiste.
Mais, malheureusement pour cette nouvelle direction, l'histoire continue aussi avec les mêmes salariés.
Moi je le dis, je suis fier, plus que fier d'avoir refusé cette régression sociale que sont les 4-8. C'est avec les mecs de Goodyear qu'on va pouvoir se battre. Mais c'est vous et vous seul qui devez en prendre conscience aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite bon courage, mes camarades.
Crise, fatalité, on n'a pas le choix. PSE, plan de sauvegarde de l'emploi. L'histoire qu'on vient de vous résumer et qu'on va illustrer, qu'on va vivre jusqu'à 16h, dépasse largement ces mots et ces formules banalisées à l'extrême. On n'a pas le choix. C'est la crise, PSE, plan de sauvegarde de l'emploi. Cette histoire, c'est l'histoire d'une lutte. Une lutte dure, une lutte face à face, une lutte sociale déjà ancienne. On est à Amiens, dans la Somme, en Picardie. Là se trouve une entreprise qui s'appelle Goodyear Dunlop, premier employeur privé en Picardie. On dit Amiens Nord, mais on dit Amiens Sud. En fait, il s'agit de deux groupes séparés par une rue. D'un côté, Goodyear, 1450 salariés. De l'autre côté, Dunlop, 1300 salariés. Voilà l'entreprise Goodyear Dunlop Tires France. Deux usines, donc, à Amiens. En juillet 2008, la direction met en œuvre un plan de réorganisation du travail de 4 équipes au lieu de 5, donc suppression d'une équipe. Dunlop accepte le passage au 4-8. Goodyear refuse le passage au 4-8. Si les syndicats, évidemment, sont en lutte contre la direction, il y a aussi une guerre intersyndicale, une guerre à l'intérieur même de la CGT. Il faut rappeler que la CGT est le premier syndicat chez Dunlop comme chez Goodyear. Réponse de la direction au refus du syndicat de Goodyear, menace de licenciement, de 402 licenciements. Chantage à l'emploi, s'écrient les syndicalistes, et on va ainsi jusqu'au tribunal qui retoque, effectivement, qui invalide ce projet de licenciement, de 402 licenciements. Puis l'entreprise abandonne ce projet. Et là, ces jours derniers, ce 26 mai dernier, annonce non plus 402 licenciements, mais 817 licenciements. Alors voilà, on en est là aujourd'hui. Réaction des salariés, réaction de leurs représentants syndicaux, sachant que de l'autre côté de la rue, les Dunlop, qui ont, eux, accepté la réduction du temps de travail par leur direction avec ce système des 4-8, eux, en principe, jusque-là, ne sont pas menacés. Ils avaient accepté ce passage au 4-8 en échange d'un plan d'investissement. Mais le plan d'investissement n'est toujours pas mis en œuvre. Donc, les Dunlop se trouvent aussi menacés. Donc voilà, c'est cette lutte entre deux rues, entre deux façons de lutter dans cette France d'aujourd'hui. Ça dépasse évidemment le seul cadre français. Et c'est cette lutte-là à laquelle nous assistons. Comment, évidemment, les directions et ceux qui appliquent les directives des directions qu'on a rencontrées, vous vous souvenez, avec ces exécuteurs, ces cabinets et ces personnalités dévouées entièrement à ce travail de destruction d'emplois, évidemment, eux ont le temps, ont le pouvoir, ne font que ça face à ces salariés et à leurs représentants. C'est une lutte emblématique que celle des Goodyear dans une France dans laquelle on détruit chaque jour des centaines et des milliers d'emplois. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert. Goodyear, la tête haute.
Faire des les accroches tuyaux, c'était sa raison de vie. Mais ses chefs ont trouvé les cas moins chers que lui. La chair humaine ne vaut pas cher, lui a-t-on dit ciao merci. Voilà la sortie, ciao merci, voilà la sortie. Son usine de tuyaux était petite et moche, mais avec ça à la bouche et puis dans la caboche. L'aimait tellement son taf qu'il l'aurait fait gratos. Mais y'a plus de place pour les pas grand chose. Non, y'a plus de place pour les pas grand chose. Par un système parfait dans lequel le libéral se joue de la liberté. La rentabilité à l'illégalité, ce sont les règles d'un jeu où l'on vit pas vieux. Ce sont les règles d'un jeu où l'on vit pas vieux. Ils sont inutiles comme un canard sans pattes, comme un livre chez un flic ou bien comme la triste breloque qui honte son anorak. C'est un exclu du jeu où l'on vit pas vieux. C'est un exclu du jeu où l'on vit pas vieux.
Alors, la CGT Goudière dépose un préavis de grève pour les jeudis 28 mai 2009 et samedi 30 mai 2009 pour réunion d'information à la cantine. Nous vous attendons très nombreux. L'avenir appartient plus que jamais à ceux qui luttent.
Voilà, il est 15h. Les gens continuent d'arriver. Tout le monde se salue à l'entrée de la salle. C'est le réfectoire de l'usine Goudière. Et il y a 300-400 personnes. Certains des salariés ont pu se changer. D'autres sont encore en bleu de travail, en combinaison. Et partout, le t-shirt... non licenciement, plan antisocial sur un cercueil, Goudière Amiens, patron voyou.
Salut Franck.
C'est Mickaël vraiment qui va prendre la parole. C'est, il est debout au milieu de la salle. Il demande qu'on ferme la porte.
S'il vous plaît. Je suis pas pris le porte-voix, j'ai une boîte qui porte-voix, mais je voudrais l'écouter quand même. Ce que je vais vous dire, il faudra bien écouter parce que c'est hyper important, parce que je pense que le moment il est aussi hyper important. Ça fait deux ans que la direction veut absolument licencié 402 personnes. Ça fait deux ans que l'on lutte. Et on a gagné. On a gagné l'annulation du plan social. Ce matin, on était en réunion de bilan social annuel 2008. Et quand on regarde licenciement pour cause économique, en face, il y a zéro. Et ben ça, c'est notre victoire, mes camarades. C'est pas la victoire des autres, c'est la victoire des salariés de Goudière. Et c'est ça qui est important. Maintenant, on va être clair, les camarades. Pourquoi la direction, aujourd'hui, elle a pas les couilles d'annoncer 1400 suppressions de postes? Parce que c'est exactement ce qu'elle aurait dû annoncer, mais elle l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus facile pour elle d'abord d'en virer 820, de croire qu'il va y avoir une division entre nous, parce que ça, je vous garantis, je vous lâcherai pas là-dessus, ça c'est clair, de croire qu'il va y avoir une division entre nous, et que cette division va lui permettre de virer 820 mecs, bon an, mal an, puis que les 400 qui vont rester vont se faire virer dans 6 mois, sauf que quand ils voudront se battre, au lieu d'être 1400, ils seront plus que 400, et là, ils partiront avec des clopinettes, ils n'auront plus rien. Donc le combat qu'on va mener, c'est tout le monde ou personne. C'est tout le monde, on est tous des Goudières. On a tous voulu la même chose, on a tous refusé les 4-8, maintenant faut qu'on se batte tout le monde ensemble. Et je ne veux pas en voir à me dire, j'ai pas eu le temps de venir, j'ai pas eu le temps de ceci, j'ai pas eu le temps de cela. C'est trop facile derrière sa télé de dire, je perds Wama, il part super bien, il est fort. Mais je perds Wama à un moment donné, il est fort, certes, il a une équipe qui est forte, certes, parce que vous l'avez voulu comme ça, mais sans vous, on fera rien. Alors on entend par-ci, par-là aujourd'hui des accusations. La CFTC, pour pas la nommer, Luc Châtel, hier encore, et certains qui disent... si l'usine est à mal, c'est la faute de la CGT qui n'a pas accepté les 4-8 alors que les salariés étaient pour.
Monsieur le député
Luc Châtel,
je rappelle qu'après 18 mois de négociations entre l'entreprise et les salariés,
secrétaire d'État chargé de l'industrie de la consommation à l'Assemblée nationale le mercredi 27 mai 2009,
les salariés avaient accepté une nouvelle organisation du temps de travail qui permettait la pérennité de l'entreprise. Eh bien, à la suite de ce vote, un syndicat, majoritaire c'est vrai, a refusé cette disposition et a refusé la mise en œuvre de cet accord. Il s'agit du syndicat de la CGT. On ne peut que le déplorer.
Je suis désolé, à mon avis, on n'a pas dû, on n'est pas dans le même contexte. Les 4-8 n'auraient de toute façon rien permis et surtout pas la survie de l'établissement. On a un exemple en Picardie qui est Clairvaux. Les mecs, ils ont accepté les 40 heures. Ils ont accepté la perte du 13e mois. Ils ont accepté des rotations infernales. avec au bout une garantie d'emploi jusqu'en 2012. Résultat des courses, un an après à peine, l'usine ferme. Si ça s'appelle pas de la traîtrise, je sais pas comment ça s'appelle. La différence entre la CGT Goodyear, la CFTC de Clairoy et les autres pleupleux d'à côté, c'est que nous, quand vous avez voté contre, on a respecté votre choix. Et on vous avait dit pourquoi il fallait voter contre. Et aujourd'hui, plus j'avance, plus je suis convaincu qu'on a bien fait.
On a bien fait, on a bien fait. C'est Michael Baben qui parle, délégué CGT de l'usine Goodyear. Il ne faut pas croire que tout va si mal du côté Goodyear qui annonce oui, non, 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 il faut baisser la production du nombre de pneus, etc. Pour les actionnaires, ça ne va pas trop mal, puisqu'en 2007, ils ont vu leurs revenus doubler. C'est quand même pas mal, hein? Un actionnaire, on fait rien, on roupille, et hop, ça double. Accident du travail et des trajets concernant l'usine Goodyear. En 2006, 6263. En 2008, 11 149. Rapport entre la moyenne des rémunérations des 10% des salariés touchant des rémunérations les plus élevées et celles correspondant aux 10% des salariés touchant les rémunérations les moins élevées. Eh bien, en 2006, c'était 2,64, cette différence, et en 2008, 3,19. Heures effectuées par du personnel intérimaire, on est passé en 2006 de 3 515 000 et quelques heures à 5 millions, près de 6 millions en 2008. Ce que je vous dis là, c'est quelques éléments du bilan social officiel de la maison Goodyear, des établissements Goodyear, bilan social 2008. Voilà, c'est quelques indications qui indiquent que ça ne va pas mal pour tout le monde. Évidemment, la région de Picardie où nous sommes est particulièrement touchée. Elle n'est pas la seule, bien sûr, en France, mais là, ça fait quand même un peu beaucoup et ça ne date pas d'hier. J'ai sous les yeux une déclaration de M. Claude Guéverc, qui est président de la région Picardie et qui, devant ce que nous sommes en train d'entendre, dit oui, oh, ça ressemble à un règlement de compte. Voilà, c'est son analyse et il promet de recevoir les représentants des syndicats de l'usine en précisant toutefois qu'il ne peut, je cite, pas s'immiscer dans les négociations entre direction et partenaires sociaux. Bien évidemment, il n'est pas question que les élus ni les responsables politiques, en quoi que ce soit, s'immiscent dans ce genre d'affaires. Le témoignage de Christian.
Je me présente, je m'appelle Christian, je suis mécanicien spécialisé. Ça fait 18 ans que je suis chez Goodyear. Je ne veux pas le cacher, je fais 1400 euros net par mois. Mais moi, j'ai subi deux plans sociaux avant celui-là, dans les entreprises où j'étais. J'ai subi un plan social dans une entreprise qui s'appelle Kenneder, ici sur la zone de Sri Nord. J'ai subi un deuxième plan social à la Sogex à Boves, une boîte de plasturgie. Donc ça fera mon troisième plan social. Quoi. Cette violence-là, tu la vis au quotidien. Pas forcément une violence physique, mais morale et mentale. Enfin, c'est... Bah, de toute façon, ici, il y a eu plusieurs divorces, il y a eu plusieurs... C'était pas forcément la panacée. Bon, ma fille a 16 ans, donc elle vit ses plans sociaux. Moi, elle me dit plusieurs fois, mais pourquoi je vais apprendre à l'école puisque je vais pas trouver de travail.
Qu'est-ce qu'elle veut faire, elle?
Bah, elle sait plus. Elle voulait faire vétérinaire. Là, elle est carrément déboussolée, quoi. Elle se pose beaucoup de questions. Et à 16 ans, je trouve que c'est pas normal qu'on se pose autant de questions. Mais qu'est-ce qu'elle peut dire? Mais j'essaie de pas trop lui en parler pour pas trop la traumatiser non plus, parce que je pense qu'il y a d'autres choses. Mais bon, voilà, quoi. Si, je pense que les enfants le vivent très mal, très très mal.
Et alors, c'est quoi la différence entre un salarié de Continental qui accepte les 40 heures, qui se fait virer, et puis un salarié de Goodyear qui n'accepte pas les desiderata de la direction, mais qui se fait virer aussi?
Bah, la différence, moi, je trouve que nous, la banane dans le... Je vais m'exprimer vulgairement, la banane dans le derrière, on ne l'a pas eu. On sera battu jusqu'au bout. Par contre, les Continental, ils ont tout cédé. On partira debout, hein, avec notre fierté. Très important. C'est ce qu'il y a de plus important. Chez Goodyear, il ne faut craindre le pire. On n'est pas des continentales ici. Hein. Et les continentales, moi, je les respecte autant que d'autres personnes. Mais ce qu'ils ont signé, c'est... Voilà, ils ont essayé de sauver leur emploi, d'accord, mais bon. Ils se sont fait bouser à fond, quoi. Mais nous, ça ne sera pas faire, quoi. On ira jusqu'au bout. On n'a plus rien à perdre, de toute façon. Hein. Il y a un instant, on n'a plus d'emploi, on n'a plus rien à perdre. Et il y a des gens ici qui n'ont vraiment plus rien à perdre. Déjà, avec leur emploi, ils ont du mal à s'en sortir. Alors, sans leur emploi...
Mais c'est quoi, jusqu'au bout?
Bah, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ça laisse présager beaucoup de choses.
Qu'est-ce qu'elle attend aujourd'hui, la direction? Il n'y a pas que la direction qui attend ça, il y a les médias, il y a tout le monde. Que les mecs de Goodyear, non seulement maintenant ce soit des feignants, parce que c'est comme ça qu'on les traite à l'extérieur, mais en plus maintenant c'est des branleurs, ils pensent qu'à casser leur outil de travail. Alors je vais vous dire un truc. Il n'y aura aucune dégradation dans cette usine. La direction, elle pensait faire l'annonce lundi, qu'on arrive là-dedans, qu'on déboule, qu'on arrête tout à l'usine, qu'on foute des palettes et qu'on bouge plus pendant une semaine. Puis au bout de deux jours, ça aurait commencé à gueuler, puis au bout de trois jours, il y avait une bagarre générale entre ceux qui voulaient rentrer et ceux qui savaient pas quoi faire. Et ben ça, moi, je veux pas. Je veux pas parce que j'estime que les gens ont déjà suffisamment perdu, malheureusement, de fric avec ce putain de chômage partiel et qu'il y a des gens qui doivent d'abord retrouver une situation financière saine avant de s'engager dans des combats aussi longs. Pour autant, il y aura des luttes à mener importantes et les luttes doivent être structurées, intelligentes et coordonnées. La première des actions, mardi 2 juin. L'ensemble des salariés du groupe continental Clairvoye sera présent devant notre usine mardi 2 juin. Les salariés de Valeo seront avec nous. L'objectif, que vous compreniez bien le sentiment de dégoût des salariés de Continental qui ont accepté ce que nous avons refusé et qui, un an après, se retrouvent jetés comme des merdes et qui sont pointés du doigt par un gouvernement qui dit « On comprend pas le mec qui a fait tomber deux écrans d'ordinateur, c'est un voyou. » Par contre, le patron qui a viré les 1200 mecs alors qu'il aurait promis du boulot, lui, c'est un héros. Et ben, si c'est ce gouvernement-là qu'on a, il aura des comptes à nous rendre aussi.
Le gros lourd, le franc parler qui emmerde, rien à foutre des beaux discours. Le ton sec qui s'exprime, le dès le début s'est tendu. Le rang dans le tas, l'électron libre, on va le défendu. L'insoumis, l'insurgé, la case noire de l'histoire. Le qu'est-ce qui a leur car froid, la force du désespoir. Le sourd, le j'écoute plus, l'explosion qui en peut plus. Le fatigué du compromis, le lâche rien, le déçu. La sueur, la douleur, le dur, la peur, les chaînes. La peur, la peine, la rancœur, la haine. Le cri de la canaille, le problème, la faille dans ton système. Le paquet nerf de taille, le réquiem contestataire. On n'est pas né, le poing serré, la rage au ventre. On est écossais et insouciant, bien avant que la leçon rentre. Mais devant la poignée de salopards qui nous envoie au charbon, on a appris à se défendre, à répondre dans notre jargon. De guerre, le temps n'est pas à l'armistice. Il n'y aura pas de trêve, pas de paix, tant qu'il n'y aura pas de justice. Tant que leur ascenseur social empestera la piste, on leur fera la misère, nous, nos filles et nos fils. Rien ni personne ne pourra se mettre en travers. Écoute comment résonne ici la clameur populaire. Ils sont pas prêts de nous voir avaler notre langue. Sache qu'on frappera sans relâche tant que le vaisseau tangue. À leur état bourgeois, leur combat, leur mépris de classe, leur choix, leur décret, leur loi, les pros de la casse, leurs experts, leurs commissions, guignols, solutions, restrictions budgétaires, leur détournement de fonds, leur business, leur marché, leur bourse, leur croissance, actionnaires, décisionnaires, influence, puissance, leur licenciement, leurs plans, leurs minima sociaux, leurs profits, leur confort de vie, le poids de nos mots, leur répression, garde chiourme, leur coup de bâton, leur politique sécuritaire, leur prison, leur maton, propagande, contrôle, matraquage médiatique, leur formatage, leur technique pour endormir la critique.
Licenciement chez Goodyear à Amiens, 817 emplois menacés, alors que dans l'usine d'en face, Dunlop, qui avait accepté des réductions de temps de travail. Pour l'instant, en principe, les emplois ne sont pas menacés. Effectivement, ça ressemble beaucoup à un règlement de compte dans une lutte opposant la direction avec ses syndicats, ses syndicalistes têtus, retors, et qui veulent défendre évidemment d'abord leur emploi, leur revenu, mais aussi tout simplement leur dignité. Explication de ce qui s'est passé depuis notre reportage de février dernier avec Michael Wammen.
Bon, Michael, faut expliquer aux auditeurs. On vous laisse. Il y a quelques mois, on fait une émission, on célèbre une victoire des salariés de Goodyear, menée dans une belle lutte. Les auditeurs s'en souviennent. On revient vous voir. La direction promet de fermer le site. Et, bon, ça veut dire quoi? On peut pas gagner?
C'est-à-dire que c'est pas qu'on peut pas, puisqu'on gagne, mais je pense que ça déplaît fortement au patron, quoi. Partout où il y a des salariés qui luttent et qui obtiennent des victoires, on sent bien que derrière, ils essayent de faire en sorte qu'on criminalise un petit peu l'action syndicale. C'est-à-dire que pendant des mois, ils ont essayé de nous faire passer pour des voyous. À travers les tribunaux, on a obtenu des gains de cause sur quand même un dossier qui est quand même énorme. L'annulation d'un plan social, c'est quand même pas rien. Et puis aujourd'hui, la direction revient comme si de rien n'était en disant bah, « De toute façon, vous n'avez pas été sage et là, ce coup-ci, je vais vous punir encore plus fortement. » À aucun moment, j'ai entendu le gouvernement condamner l'attitude des patrons. On condamne l'attitude des salariés continentales parce qu'à un moment donné, ils pètent un câble et puis ils font tomber quelques écrans d'ordinateur. Il n'y a rien de bien méchant. Puis à côté de ça, par contre, les patrons qui ferment des lourdes, qui ont eu une gestion catastrophique des entreprises, à qui on a versé des milliards d'aides de l'État. Eux, par contre, ils passent pour des héros. Aujourd'hui, on sait très bien sur qui on peut compter, qui on peut pas compter. Il y a des médias aujourd'hui qui n'attendent qu'une chose et qui n'arrêtent pas de nous appeler, ça devient même du harcèlement, c'est savoir quand est-ce que ça va péter, pour effectivement, demain, nous mettre à la une de leurs journaux en disant, vous avez vu, les Goodyear, non seulement c'est des feignants, mais en plus, ont broyé leur outil de travail. Clairement, aujourd'hui, ni le gouvernement, ni certains médias ne peuvent nous être utiles.
Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences?
Vous plaisantez, j'espère.
France 2.
Je vous pose la question.
On regrette rien. Ça va... 21 avril 2009.
Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs? À côté des milliers de vies brisées, ça représente quoi? Faut arrêter là, faut arrêter.
Pour vous, la fin justifie les moyens?
Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On est en train de nous expliquer que dans 28 jours, le plan social sera bouclé et on va aller à la rue. Je ne regrette rien, personne ne regrette rien ici, parce que vous n'avez pas vu des casseurs, vous avez vu des gens en colère, des gens déterminés, des gens qui ne veulent pas aller se faire démonter, crever. On ne veut pas crever, on ira jusqu'au bout de notre bagarre. On a tenu 5 semaines, pendant 5 semaines j'ai réussi, on a réussi à retenir les gens. C'est fini, les gens ils n'en veulent plus. Le gouvernement nous a fait des promesses. Il s'était engagé à réunir une tripartie qu'on demande depuis le début, dans les 3 jours. Ça fait une semaine que ça dure.
Xavier Mathieu,
aujourd'hui, on se rend compte...
On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir?
Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère, et la colère, faut qu'elle s'exprime. Il y a un proverbe, dernière manifestation, qui dit « Qui sème la misère récolte la colère ». C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être à la rue, qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligés de vendre leur baraque. Il faut que tous que vous compreniez ça.
Merci, monsieur Mathieu.
On ne veut pas
crever. Voilà un morceau d'anthologie journalistique, ce 21 avril 2009, entre le journaliste David Pujadas et Xavier Mathieu, le porte-parole de la CGT, délégué CGT des Contis de Clairoy. Depuis, les choses ont évolué, si on peut dire, pour les Contis qui ont vu leur prime de licenciement passer de 20 000 à 50 000 euros. Alors, ils se sont dit... ils ont accepté la proposition, alors qu'évidemment, ils demandaient plus. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les salariés de Continental à Clairoy sont venus soutenir les salariés de Goodyear à Amiens. On aura, j'espère, des échos d'ici la fin de cette heure. On a compris, c'est une lutte très importante qui se passe là. Elle dépasse évidemment largement la crise, dont on ne sait pas
très bien ce que c'est que cette crise. On voit en tous les cas qu'elle est utilisée et qu'elle a bon dos pour permettre des licenciements. On observe une fois de plus et on déplore une fois de plus l'impuissance ou la complicité des pouvoirs publics qui prétendent ne pas pouvoir intervenir et qui effectivement légalement n'ont plus les moyens d'intervenir dans ces conflits, ou du moins des moyens limités. On a vu aussi comment le recours à la justice et les victoires qu'on peut obtenir devant les tribunaux sont de courte saison. Et fallait-il ou non, évidemment, c'est important pour les responsables syndicaux, pour les délégués syndicaux, fallait-il ou non accepter ce que les Clairois ont accepté, les Contis de Clairoy avaient accepté, vous vous souvenez de cette histoire, ils avaient accepté la réduction de leur salaire. On leur avait dit, oui, si vous voulez sauver vos emplois, il faut, voilà, ils ont accepté et ils se font virer. Alors évidemment, bon, il y a une petite satisfaction finalement sur les indemnités. Donc faut-il accepter accepter les compromis ou se battre et avec dignité, la tête haute.
Bon, est-ce que le bilan tiré, c'est pas que finalement il aurait fallu accepter les 4-8?
Bah non, clairement non, parce que moi je vois ce qui se passe aujourd'hui chez Clairoy Continental. Les mecs, ils ont tout accepté, puis résultat des courses, ils se sont fait baiser, quoi.
Parce que donc c'est ça veut dire on accepte, on se fait baiser, on n'accepte pas, on se fait baiser quand même.
Non, si on n'accepte pas, déjà on a la tête haute. Mais à l'époque, on a mené une bataille avec les salariés, avec un rapport d'expert qui dit que depuis 2006, la direction a pris la décision de fermer l'usine.
Comment ils savent ça?
Bah, on le sait parce que les experts aujourd'hui, ils ont trouvé ça dans les comptes, dans le bilan financier du groupe en Europe. Et il y avait l'équivalent, donc c'est ce qu'on appelle des provisions. Les provisions représentaient l'équivalent du ferraillage des machines et des licenciements des salariés. Donc aujourd'hui, on sait pertinemment que
ça veut dire ferraillage, ça veut dire mettre les machines au rebut.
Et puis, de toute façon, un groupe comme Goodyear, c'est une multinationale au même titre que Continental. Ce qui arrive en 2009, ça a été décidé au moins 5 ans avant. C'est-à-dire que c'est des multinationales. La politique industrielle, les calculs industriels sont faits au moins sur 5 ans.
Bah, ce que vous dites là, il y a une stratégie en gros à 5 ans. En tout cas, au moins depuis 2006, on voit qu'il y a des provisions qui sont faites pour licencier les gens. Ça veut dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec la crise. Pourtant, on nous dit c'est la crise, c'est la faute, de chance.
Bah, la crise, elle a bon dos. Goodyear fait des bénéfices. Total fait des bénéfices. Michelin fait des bénéfices. Continental, la branche du pneu, fait du bénéfice. Partout dans une entreprise où il y a du bénéfice, ils licencient. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils utilisent la crise en disant on est prévoyant. On sait pertinemment que la reprise va être difficile, etc. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un patron du CAC 40 n'a à se plaindre de la crise? Est-ce qu'aujourd'hui, Total peut se plaindre de la crise? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'enrichissent sur la crise. Et il y en a qui souffrent de la crise, et c'est toujours les mêmes. Quand je vois qu'on va filer 6 milliards d'euros et à Peugeot et à Renault, 3 milliards chacun, et qu'à côté de ça, les mecs qui produisent des machines sur les chaînes, ils n'auront pas un centime, je trouve ça grave. On a versé des milliards aux banques. Un exemple, BNP Paribas a touché, je crois, de mémoire, 3 milliards. Ça, c'était le lundi. Le mardi, les actionnaires de BNP Paribas faisaient un banquet sur Paris qui coûtait 500 000 euros alors qu'ils allaient les faire faillite. C'est dramatique en soi. C'est-à-dire qu'on gaspille l'argent public. Ce qui veut dire que quand tout va repartir, toutes les caisses sont vides et ces mêmes personnes qui nous ont piqué dans nos caisses vont nous dire maintenant, il faut faire des sacrifices supplémentaires. On a eu des crises, on a eu des moments où il n'y a pas eu de crise, mais ça n'empêche qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est demandé, on le demande aux salariés. Je vais donner un exemple. Le président de la République, il s'augmente de 170%. Bon, c'est vrai qu'ils sont calculés, il est bon, il vaut mieux augmenter un gros compte 170% que des millions de salariés à 1%. Sauf que nous, quand on a du pognon, on le dépense pour vivre. Eux, quand ils ont du pognon, ils le placent pour nous faire crever. C'est ça la différence. C'est ça.
Ceci est une alerte disparition du ministère du Travail Picard. On est toujours sans nouvelles de Bernard Thibault, 50 ans, 1m83, cheveux mi-longs, qui porte un t-shirt rouge délavé. Ce sont ses camarades de classe qui ont donné l'alerte. La dernière fois qu'ils l'ont aperçu, un syndicaliste barbichu, vêtu de jaune, dont la description correspond à celle de François Chérec, semblait rôder auprès de lui. À cette heure, le silence de Bernard reste un mystère. Aidez-nous à le retrouver. Ceci était une alerte disparition du ministère du Travail Picard.
Pour un exemple, 16 septembre 2008, on fait venir tous les sous-traitants qui subissent des plans sociaux. Il y avait un peuple phénoménal devant. Il y avait des mecs de Ford, il y avait des mecs de partout, des mecs de Michelin qui étaient présents, des mecs de Kléber. Et effectivement, il manquait une personne. Et pourtant, on l'avait invité, c'était Bernard Thibault. Et il nous dit, la veille, je peux pas venir. Enfin, il nous dit pas nous, parce que, bon, je sais pas comment il faut faire pour le joindre, c'est pas évident. Mais effectivement, aujourd'hui, moi, ce que je dis par là, c'est pas Bernard Thibault qui va tout faire changer. Mais Bernard Thibault, aujourd'hui, il a un rôle important. c'est de dire à un moment donné, il faut qu'on impulse au maximum des grèves reconductibles dans ce pays, bordel. On s'en sortira pas avec des grèves une fois par mois, qui tombent un samedi, qui tombent un jour en semaine, qui tombent le 1er mai, c'est impossible. On avait une dynamique très forte, c'est sur le premier mouvement de grève du mois de janvier, il y avait plus de 2 millions de personnes dans les rues. À Amiens, j'avais jamais vu ça, jamais. Il y avait des gens de tous bords. À la fin de la manif, les gens ils ont dit, maintenant on fait quoi? On nous a dit, il faut attendre, vous allez voir, etc. On a attendu un mois, on a remis le couvert, 2 millions de personnes. On a attendu un mois, on a mis le 1er mai, 1 million de personnes, même pas. On a attendu, on a mis là, le 26 mai, 500 000 personnes. Et puis, 13 juin, il n'y aura plus personne. Et le résultat, au bout du bout, c'est qu'on est passé à côté d'un truc qu'on aurait pu faire qui était exceptionnel. Je pense qu'il est grand temps qu'on aille bousculer un petit peu ce cocotier et qu'on aille expliquer aussi à notre leader syndical, qui est Bernard Thibault, qu'à un moment donné, tout ne se réglera pas dans des discussions entre lui et le gouvernement. Il était l'invité l'autre jour du plateau de Canal+. Je ne l'ai pas entendu critiquer les parachutes dorés du mec de Total, du mec de Valeo. Un syndicat qui condamne les séquestrations de patrons, mais c'est quoi ce travail-là? La violence aujourd'hui, ce n'est pas la séquestration de patrons. La violence aujourd'hui, c'est le mec qui va perdre son boulot et qui est à la rue. C'est ça aujourd'hui le problème.
Discipliné, j'ai bien acheté ce qu'on m'a vendu à la télé. Le roi de la consommation, c'est Bibi et pas Dupont. Travailler 45 heures sans jamais piquer du nez. Le prince du dur labeur, c'est Bibi et pas ta sœur. Tout ce qu'on m'a demandé, je m'y suis plié sans broncher. Maintenant la France va mal et faudrait trouver ça normal. C'est la crise et nos élus prônent le calme. C'est la crise, tonnerre pour mon moral. C'est la crise et nos élus prônent le calme. C'est la crise, tonnerre pour mon moral. De l'air, je suis vénère, vénère. J'ai le cerveau, les nerfs à l'enfer. Mais faut apprendre à se taire. Faut la fermer, serrer les rangs, marcher au pas, serrer les dents. Faut pas chercher la petite bête, sinon en France on te fait ta fête.
Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre, mais j'ai envie de dire à tous nos compatriotes que la France se porte comme un charme. Écoutez la conjoncture actuelle et
tout ce qu'on nous a demandé, on s'y est plié sans broncher. C'est le retour à leur morale, et faudrait pas que ça devienne banal. C'est la crise, et nos élus trouvent ça normal. C'est la crise, tenez pour notre morale. C'est la crise, et nos élus trouvent ça normal. C'est la crise, tenez pour notre morale.
C'était le 26 mai, mardi 26 mai, la direction de Goodyear, Dunlop Tires France, annonçait un plan social, prévoyant 817 licenciements pour l'usine de pneus d'Amiens Nord. Ce nouveau plan social est donc deux fois plus important que le plan précédent annoncé en mai 2008 et qui avait été invalidé en novembre par la justice pour non-respect par l'entreprise des procédures légales. On s'était évidemment réjoui de cette décision de justice qui constituait une victoire pour les salariés et pour les syndicats. Et eh bien, ce plan a été mis de côté, oublié. Et là, c'est un plan du double de licenciement qui risque d'entrer en vigueur pour, évidemment, la plus grande colère, la stupéfaction des salariés de Goodyear.
Alors, je vous le disais tout à l'heure, on parle de projet. Pour moi, un projet, ça reste à l'état de projet tant que la direction n'a pas réussi à le mettre en œuvre. Rappelez-vous quand même, ils avaient un projet de 4-8 il y a 3 ans. Ils avaient un projet de plan social il y a un an. Et pour l'instant, il n'y a ni 4-8, ni plan social. On vous avait promis qu'on irait chercher l'avenant. On l'a eu. On vous avait promis qu'il n'y aurait pas de 4-8. Vous ne l'avez pas eu. On s'est battu, on a dénoncé l'accord. On vous avait dit qu'il y aurait un plan social qu'on ferait annuler. On l'a fait annuler. Là, maintenant, on vous donne un engagement. On va se battre jusqu'au bout pour, un, essayer de faire annuler ce plan social par voie juridique. Si dans les premières réunions, on s'aperçoit que ce n'est pas possible, on vous réunira une nouvelle fois dans cette même salle. On vous dira que ce n'est pas possible. Et avec vous, on décidera de nouvelles formes d'action à mener, certainement d'un cran supérieur en termes d'amplitude et de force. Et pour le moment, il faut que vous soyez conscients d'une chose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le tous ensemble qui sera prioritaire. Si vous n'avez pas compris ça, on ira droit à l'échec. Je n'accepterai pas la moindre excuse à 2 francs ou à 2 balles, si comme vous voulez, pour des mecs qui me disent « j'ai pas pu être là ». Quand on est prêt à perdre son boulot quasiment, à perdre sa vie de famille, sa structure et tout ce qu'il y a derrière, on n'a aucune excuse. La seule responsabilité de ce plan social, elle incombe à l'employeur, parce qu'il n'a pas été capable d'écouter ce qu'on lui a demandé pendant des années, à savoir des investissements. Il y a des anciens dans cette salle. En 96, quand on a fait grève, qui voulaient mettre le 4-8 en place et qu'on demandait des investissements, on nous a dit qu'il n'y avait pas de pognon à Mianor. Avec les fonds propres de notre usine, ils ont acheté l'usine de Debitsa en Pologne. C'est ça la réalité. Donc du fric, il y en a eu et du fric, il y en a encore. Et si ce fric, s'ils veulent nous virer, c'est ce fric-là qu'on va aller chercher. C'est notre pognon. Et c'est pas Luc Châtel ou Sarkozy qui nous arrêtera, ça, faut que ce soit clair. On est déterminés à aller jusqu'au bout. Moi, je le dis, je suis fier, plus que fier d'avoir refusé cette régression sociale que sont les 4-8. On doit être fier aujourd'hui de représenter les salariés de chez Goodyear, mais c'est avec les mecs de Goodyear qu'on va pouvoir se battre. Mais c'est vous et vous seul qui devez en prendre conscience aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite bon courage, mes camarades.
Tout le monde dit on n'a pas le choix, par exemple, de d'acheter des machins de Chine, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est comme voilà quoi, ça veut rien dire en fait. On finit des phrases, on n'a pas le choix, voilà quoi. On termine des phrases comme tout à fait ou absolument, ça veut rien dire ça. On n'a pas le choix, ça veut rien dire. Si on a le choix, c'est de travailler pour nous. Sarko, il veut faire une loi, les délinquants de la route, on leur saisit leur voiture. D'accord ? Bon, celui qui en a 12 dans le garage, c'est moins grave que celui qui en a besoin pour y travailler. Mais celui qui est délinquant de l'emploi, qui supprime des emplois, qui met des familles dans la misère, celui-là c'est un délinquant, on doit y piquer son usine, on doit y saisir son usine.
Et qu'est-ce qu'on en fait à l'usine ?
Bah, on travaille dedans. Si on doit virer 1000 personnes, d'accord ? On travaille dedans, même s'il n'y a pas de bénéfice. On travaille dedans, il n'y a pas de bénéfice. 1000 chômeurs en moins, 1000 personnes qui cotisent, tout va bien, c'est simple.
C'est quoi c'est
moins de profit.
C'est l'autogestion ?
Bah, pourquoi pas ? Parce que si on travaille, c'est pour les autres, pour en profiter, puis aller investir ailleurs, puis nous faire crever. Si Sarko, il veut garder le pognon pour payer que les CRS et les militaires pour nous taper dans la gueule, eh ben, il va falloir qu'on se défende. Si on se défend pas, ben, on est croqué. Voilà, c'est tout.
Voilà, alors actuellement à Amiens, les ouvriers, les salariés de l'usine continentale de Clairoy sont venus soutenir les salariés de Goodyear à Amiens. Voilà des échos avec Evelyne Becker de la CGT.
Voilà, on est avec vous, Evelyne Becker. Vous êtes représentante syndicale à la CGT. Est-ce que vous pouvez me dire où vous vous trouvez là, en ce moment ?
Alors actuellement, on est avec les Conti. Donc il y a pas mal de personnes, je dirais 2000 personnes à peu près.
2000 et donc
on va en cortège là, juste entre villes.
Bon, mais les Continentales, on a appris que hier, apparemment, ils avaient remporté une victoire. Ça y était, il n'y a pas danger qu'ils vous soutiennent plus, qu'ils abandonnent la lutte.
Non. Au contraire, ils sont avec nous, là. Et là, justement, Xavier Mathieu et puis Michael Wamin de chez Goodyear ont parlé à tous les salariés. Et on était tous d'accord pour dire qu'il ne fallait pas laisser faire ça, quoi.
Donc, est-ce qu'on va vers une coordination des mouvements dans le bassin
ouais,
de Picard ?
C'est ce qui serait souhaitable, bien sûr. Pour que ça marche, il faut que tout le monde soit ensemble. Et les Conti, et les Goodyear, et les cadres, et les employés, et les ouvriers, et tout le monde, quoi.
Bon, il y a un message à faire passer aux auditeurs de France Inter ?
Un message, c'est que tant qu'on n'a pas lutté, on n'a rien gagné, quoi. Donc, il n'y a que la lutte qui paye.
Merci à toutes et à tous. C'était un reportage de Renaud Lambert. Merci à Michael, Evelyne, Christian, tous les autres. Merci aussi à Gilles, Damien et Laurent. Merci aussi à nos confrères de France Bleu Picardie. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, le site non officiel de là-bas, si j'y suis. Et participer au forum de là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Patrick Horry, Koye Nguyen et Raphaël Moutet ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry et Agnès Lebotte. Attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et je rappelle les trois projections cette fin de semaine à Poitiers, Niort et Montcoutant de Chomsky et compagnie. Réclame.